Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le prophète Zacharie. Est-ce que vous avez envie de partager, d'avoir une pensée de Dieu, quelque chose que vous aviez besoin d'entendre ou de réentendre? Est-ce que c'est important pour vous maintenant, ce moment qu'on va avoir? Peut-être que tout à l'heure, quelqu'un aura besoin qu'on prie avec lui, pour lui. Je le sens vraiment dans mon cœur, qu'il y a des personnes qui ont besoin de victoire. Vous savez, l'ennemi fera tout pour nous anesthésier. Nous avons un Seigneur qui est tout puissant. Souvent, quand je n'ai pas envie de prier, je pense à ces textes, vous savez, qui sont là dans la Bible, quand Jésus dit, avant de remonter au ciel, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Quand il dit dans la prière sacerdotale que le Fils a reçu autorité et pouvoir sur toute chair, quand il est dit que depuis qu'il est remonté au ciel, toutes les puissances, les autorités, les dominations lui ont été soumises. Ça vous arrive de ne pas avoir envie de prier? Est-ce que ça vous arrive qu'à moi? Répondez-moi. Eh bien, moi, j'ai besoin de ces versets qui me fortifient et qui me montrent la toute-puissance du Seigneur Jésus-Christ. Avec Dieu, il y a deux choses. Il y a la vie corporative, collective, et il y a la vie individuelle. Vous êtes d'accord? C'est clair. L'Église, c'est tout un corps qui doit être uni et à travailler ensemble, et Dieu a prêt à bénir l'ensemble. Et d'un autre côté, Dieu bénit l'individu. Vous le voyez lorsque Dieu s'adresse à cette église de l'Apocalypse, il s'adresse aux églises, dans leur collectivité. Il s'adresse à lui. Et pourtant, il termine en disant « à celui qui vaincra ». Il s'adresse d'une manière personnelle. Nous le voyons plusieurs fois dans l'Écriture, très souvent dans l'Écriture, lorsque Dieu reprend le peuple d'Israël du temps d'Amos, ça ne va pas très bien, ça ne va pas du tout même. Et Dieu leur dit, voilà, j'ai fait ceci, je vous ai refusé la pluie, j'ai dû faire ceci pour que vous reveniez à moi. Et puis tout d'un coup, alors il parle au pluriel, et tout d'un coup, vous connaissez ce verset, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il s'adresse à l'individu. Et on le voit très souvent dans la parole de Dieu, on le voit même dans les évangiles. Il s'adresse à tous et puis il termine en disant à Pierre, que t'importent les autres, toi, suis-moi. Alors nous pourrions prendre que des textes qui indiquent ceci, pour indiquer que Dieu veut bénir les églises, mais Dieu veut aussi bénir les individus personnellement. Dans le prophète Zacharie, cette pensée revient. Au chapitre 10, il y a une proposition qui est faite. Et cette semaine, quand j'ai prié pour ce culte, ce texte s'est vraiment imposé. Et je vous prie de le prendre en considération. Peut-être que quelqu'un est à un rendez-vous de sa vie et il doit savoir que Dieu bénit l'homme en particulier. Zacharie, chapitre 10. Regardez. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. Zacharie, chapitre 10. Je recommence pour ceux qui n'avaient pas trouvé le texte. Zacharie chapitre 10. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera, regardez bien le verset, le mot qui suit, à chacun de l'herbe dans son champ. Et c'est ce verset qui s'est imposé à mon cœur cette semaine. Dieu donnera à chacun. C'est quelque chose de sérieux. Parfois, vous l'avez remarqué, les prédications s'adressent vraiment à tout un auditoire, c'est le cas. Mais il y a des moments où chacun, nous devons prendre très 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 consciencieusement cette affaire à cœur. Chacun, nous savons comme un terrain. Ce terrain est-il arrosé? Ce terrain est-il béni? Ou ce terrain est-il en friche? Ce terrain est-il desséché? Misérable, car je pense que nous voulons tous la bénédiction. Il y a quelqu'un qui ne voudrait pas la bénédiction? Il y a quelqu'un qui dirait, moi, ça m'est égal? Non, nous avons tous besoin de la bénédiction du Seigneur. Alors, cette prédication que j'ai reçue, c'est vrai que je l'ai reçue de manière particulière, parce que j'ai compris vraiment que certains se privent de cette bénédiction particulière. Personnel. Vous voyez, vraiment, Dieu m'a arrêté sur ce texte. Il enverra, il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Voulez-vous que votre champ soit vert? Voulez-vous que votre bénédiction soit réelle? Alors, il faut prendre au sérieux les choses spirituelles. Moi, je suis étonné. Je vous ai dit que l'autre jour, non, je l'ai dit à quelques frères. J'ai reçu, par le biais d'une sœur dont on s'est moqué au travail, j'ai reçu un courrier qui vient d'une église du Kenya, quelque chose d'abominable. Je ne peux même pas en parler, tellement c'est dégoûtant. Si vous le voulez, je vous le donnerai, mais je ne veux même pas l'évoquer, je ne peux pas vous le dire. Tellement c'est une abomination. Ça s'est passé dans une église où un pasteur a demandé quelque chose. Je vous assure, c'est abominable, abominable. Je vous le donnerai, je vous l'enverrai, je ne peux même pas vous le lire. Je ne saurais pas le lire. J'aurais l'impression de salir l'église. Et c'est un pasteur qui a demandé quelque chose dans l'église. Et j'ai eu la preuve, écoutez bien, c'est grave ce que je veux dire, j'ai eu la preuve que dans certaines de nos églises, il y a personne n'est converti. Et là, j'en ai la preuve. Je vous le montrerai. Les anciens ne pourront que me dire, vous avez raison. Je ne peux pas me tromper. Ce n'est pas possible. Nous avons la preuve. J'ai la preuve. Je vous la livrerai si ça vous intéresse. Ne le faites pas par curiosité. Ne me demandez pas le papier par curiosité. Ça ne servira à rien. Mais c'est vraiment grave. Il y a dans des églises... Moi, je peux vous dire que dans une église, si les gens étaient convertis, personne ne serait retourné à l'église. Personne. Aucun homme et aucune femme n'aurait pu retourner dans cette église. Faites-moi confiance. C'est pour vous dire qu'il y a un problème grave d'aveuglement spirituel et que Dieu, lui, veut bénir, mes frères et sœurs. Dieu, il veut bénir. Vous connaissez tous ce texte dans Deutéronome 28. Il fait partie de ces quelques textes que Dieu m'a mis à cœur cette semaine, un texte extraordinaire où nous voyons que l'obéissance amène Dieu à ouvrir son ciel. Voulez-vous que le ciel soit ouvert au-dessus de votre champ? Parce que pour qu'il pleuve sur votre champ à vous, il faut que le ciel soit ouvert. Et c'est une question d'obéissance. Voyez, moi j'ai lu des livres dernièrement, il y a eu des livres qui sont sortis sur la foi. Alors, je vous pose une question, comme si vous étiez des stagiaires. Écoutez-moi bien, c'est une question que je poserai aux stagiaires. Est-ce que la puissance vient de la foi? C'est une bonne question. Oui, la puissance vient de la foi. Mais la foi, elle vient de l'obéissance. Est-ce que vous me suivez? Et voyez, et on peut tout articuler sur la première pensée, que la puissance vient de la foi et faire tout un enseignement sur la foi sans exprimer. L'important, c'est que la foi vienne de l'obéissance. C'est sérieux cette affaire. C'est en amenant ces choses ainsi qu'on amène les gens à une véritable piété. Alors dans le Deutéronome 28, du verset 1 au verset 14, on va le lire. On va le lire, ça fait partie de la prédication. C'est peut-être le plus important, car ce sont des textes que vous pouvez méditer. Dieu n'arrête pas, lisez le Deutéronome en entier d'ailleurs. Cette pensée revient en boucle constamment pour qu'on le comprenne. Regardez ce que Dieu dit. Deutéronome 28, on va le lire lentement pour bien comprendre l'importance de l'obéissance qui ouvre le ciel. Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris, aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras. Je répète parce que c'est la clé. Lorsque tu obéiras, ce n'est pas une question d'être d'accord. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par un sept chemin. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Ça, c'est une des clés. Je relis. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandes de l'Éternel, les commandements, pardon, de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Le verset clé. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Mes frères et sœurs, ce sont des textes sérieux. Bien sûr que ce sont des textes qui nous rappellent que Dieu veut nous bénir. Ce n'est pas mon sujet de prédilection, ça, la bénédiction. Justement, parce que quand un homme obéit, Dieu le bénit. Et ce n'est pas la peine de mettre la pression sur les gens, Dieu veut vous bénir, Dieu veut vous faire prospérer, etc. etc. Si on n'obéit pas, c'est du mysticisme, c'est de la méthode Coué, et c'est très grave parce que Dieu ne peut pas bénir ces choses. Parce que le mysticisme, il existe dans l'Église. Il existe. Vous voyez, l'autre jour, je parlais avec quelqu'un qui disait « Ah mais, moi, je n'ai pas le temps d'élever mes enfants, que Dieu les éduque lui-même, moi, je n'ai pas le temps. » C'est quoi ça? Mais ça, c'est du mysticisme. C'est ridicule. Quelqu'un qui dit, moi, je n'ai pas le temps de m'occuper de mes enfants, que Dieu les éduque. Vous voyez, ce n'est pas la foi, ça. Ça, c'est ridicule. Parce que je crois que si Dieu nous donne des enfants, il faut qu'on s'en occupe. C'est un exemple. Mais c'est pour vous dire que des gens, oh, on pourrait, quelqu'un qui, vous voyez, qui est limité pour dire, oh, quelle foi il a. Ce n'est pas la foi, ça. Laissez-moi vous dire que c'est tout sauf de la foi. Dieu dit qu'il ouvrira son ciel. Dieu dit qu'il ouvrira son ciel, qu'il peut donner à chacun de l'herbe, qui est l'image vraiment de la bénédiction sur le terrain de notre cœur. Tous nous voulons cette bénédiction, tous. Alors l'obéissance, alors c'est bien de voir déjà, il y a plein d'exemples, mais de voir quelques textes où le ciel s'est ouvert, où Dieu a dit qu'il ouvrirait son ciel. Par exemple, dans combien de textes il nous est dit que le ciel s'est ouvert sur Jésus? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Comment? Au baptême. Luc, alors on y va, au baptême. Madame Loupiac, on y va, c'est votre faute. Puisque Madame Loupiac maintenant me donne les textes à lire. Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, verset 21. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que Jésus était en train de faire? Madame Loupiac l'a dit, c'était le jour de son baptême. Jésus avait environ 30 ans. Qu'est-ce qu'il fait? Jésus, Luc chapitre 3, verset 21, « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. » Et pendant, qu'est-ce qu'il faisait? Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Alléluia. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Première fois où nous voyons le ciel s'ouvrir au-dessus de Jésus, c'est tout à fait au début de son ministère public. Il avait 30 ans, mais pourquoi le ciel ne s'est-il pas ouvert avant? Jésus était-il le Fils de Dieu? Jésus, est-ce que le ciel aurait pu s'ouvrir? Non. C'était à ce moment-là que le ciel s'est ouvert. Regardez bien, parce que Jésus n'est pas en train de prendre le baptême. Il n'est pas qu'en train de prendre le baptême. Il est vraiment en train d'obéir à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de gens prennent le baptême, mais n'obéissent pas à Dieu. Jésus obéit, les Lévites commençaient le service à partir de 30 ans. Parce qu'on peut se poser la question, pourquoi Jésus n'a pas commencé à 25 ans? Est-ce qu'à 25 ans, quand il marchait dans les rues de Jérusalem, il voyait des aveugles, des boiteux, des paralytiques? Est-ce que Jésus en a vu? Est-ce qu'il en voyait? Est-ce qu'il savait qu'il était le Fils de Dieu? À quel âge il a su sûr qu'il était le Fils de Dieu? Ben à 12 ans, vous le savez, quand il parlait avec les docteurs, qu'ils étaient tous étonnés, et que quand sa mère, au bout de 3 jours, et son père sont revenus pour le trouver, parce que tout le monde marchait ensemble, et qu'il leur a dit, mais ne saviez-vous pas qu'il fallait que je m'occupe des affaires de mon père? Donc déjà à 12 ans, Jésus savait très bien qu'il était le Fils de Dieu, parce qu'il y a eu tellement de bêtises dites là-dessus, et le premier miracle, il l'a fait après, aux noces de Cana, c'est pas avant, moi j'ai entendu de ces âneries, pas possible. Mais Jésus a attendu 30 ans parce que les ministères à l'époque commençaient à 30 ans. Regardez dans le Lévitique. Donc il a obéi, il a obéi. Il aurait pu dire à 25 ans, je ne sais pas moi, est-ce qu'à 25 ans il aurait pu dire, bon je suis le Fils de Dieu, ça ne va pas, ça, bon, moi, je change les choses. C'est pas vrai. Vous comprenez ce que je veux dire? Il aurait pu dire, cet aveugle-là, ça fait 6 mois que je le croise, quand même je suis... Non. L'obéissance. Le ciel s'est ouvert au-dessus de Jésus. Le baptême, c'est un engagement. Bien sûr que nous, on le présente, comme on l'a fait l'autre jour, on le présente comme étant l'engagement d'une bonne conscience. Mais bien sûr que c'est un engagement. Mais moi, j'en ai honte. Mais parce que moi, le premier, là, je me prêche. Je me rends compte que le baptême, ça représente la mort à soi-même. C'est ça, le baptême. Le Jourdain dans la Bible, on le voit. Hier, je regardais quand Élisée, je regardais ces hommes qui ont été oints de Dieu d'une manière particulière. Et vous savez qu'ils ont été déterminés, par exemple Élisée, à suivre Élie dans plusieurs phases. Mais c'est, vous savez, ils sont partis, il y a tout un trafic là où ils sont passés. Et ils sont revenus au Jourdain parce que le Jourdain représente la mort. Jésus, quand il prend le baptême, il confesse qu'il est mort à lui-même. C'est pour ça que le ciel s'est ouvert. On se demande pourquoi il n'y a pas de réveil. Mais moi, j'ai vu une jeune fille ici qui a pris le baptême il y a 10 ans, pas ici, mais elle a pris le baptême il y a 10 ans dans une église évangélique. Le soir même, écoutez bien, le soir même, elle était dans une boîte de nuit et elle avait couché avec un garçon. C'est pour vous dire comment les gens n'ont rien compris au baptême. Et cette jeune fille a accepté, elle m'a dit, monsieur Sugo, je viens ici. Après, elle s'est repentie, elle a mis sa vie en règle, etc., etc., etc. Cette fille, aujourd'hui, est vraiment une vraie chrétienne. Mais c'est pour vous dire ce qui est en train de se passer. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à cette église au Kenya, où j'ai la preuve, mais vous le verrez, vous l'aurez, il n'y a pas besoin d'être un prophète pour comprendre, où les chrétiens ne peuvent pas être convertis à cette église. C'est impossible. Impossible. Et là, nous voyons le ciel qui s'ouvre, nous le voyons. Dieu dit, mais voilà, bon, il y a... Demandez à chacun. Mais vous comprenez bien que demander, ce n'est pas dire, voilà, Seigneur, bénis-moi, mon chant, je crois par la foi que tu bénis mon chant, alléluia, alléluia, au nom de Jésus. Ça, mes frères et sœurs, ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'il y a des gens qui ont crié le nom de Jésus, le nom de Jésus, alors comme cette sœur qui traversait une rue une fois à Toulouse, qui passait au feu vert, quand les voitures étaient au feu vert. Elle passait, vous voyez, avec son sac à main, au nom de Jésus, sous ton sang. Et moi, je me suis dit, un jour, c'est sur ton sang qu'on va marcher. Et c'est ridicule, ça. Quand on s'arrête au feu rouge, au feu vert, on laisse la voiture passer. Vous voyez comment les gens sont bêtes. Parce que ça, c'est de la bêtise. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est la foi, ça? C'est pas la foi. C'est ridicule. On est con, le témoignage, déjà, que quand on rend un bon témoignage, les gens ne nous prennent pas toujours pour des gens sérieux. Alors imaginez-vous cette femme. C'est lamentable, vous voyez. Mais quand on lit la Bible, revenons à notre sujet, on voit que Dieu veut ouvrir son ciel. Et le jour du baptême de Jésus, le ciel s'est ouvert. Il a commencé avec cette grâce parce qu'il était en train d'obéir. C'est pas pour rien qu'il est écrit, il avait environ 30 ans, il se soumettait à la loi. Et Dieu l'a béni. Le baptême, dans cette mort à soi-même, ne peut qu'amener la vie de l'esprit. Et hier soir, avant de me coucher, je vais vous dire une phrase, peut-être qu'on partagera avec les frères qui veulent être évêques, les diacres et les diaconesses. Il y a une pensée qui est venue à mon esprit, j'étais à genoux en train de prier dans mon bureau. Vous savez, quand dans Zacharie, le chandelier tout en or battu, vous connaissez cette affaire? Il y a un chandelier en or battu, là aussi battu. Ça nous parle de quoi? De toutes les épreuves qu'on traverse? Franchement, je lisais dans le Lévitique, oui, l'or battu. Tiens, ça m'était jamais venu à l'idée, vous voyez. Mais j'ai compris ce que ça voulait dire. Bon. C'est à partir du moment où le chandelier est tout en or que les oliviers peuvent remplir le vase et alimenter le chandelier. Mais Dieu m'a parlé que nous devions avoir des vies entièrement purifiées. Vivre dans l'obéissance, vivre dans la sainteté, vivre dans la consécration, car l'huile ne viendra pas sur des oliviers, sur des chandeliers en toc. Et ce ciel qui s'ouvre et cette approbation de Dieu, c'est ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons l'approbation de Dieu? Moi, quand je vois, j'y reviens parce que c'est grave. Vous savez, quand je vous disais tout à l'heure, avant que la réunion ne commence, qu'il y a 11 églises qui n'ont pas de pasteur. Quand je vois qu'il y en a encore un qui a démissionné cette semaine, pasteur de chez nous, un ou deux, moi, ça me brise le cœur. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand Dieu appelle, il bénit, oui ou non? Est-ce que quand Dieu nous appelle, il nous bénit? Est-ce que quand Dieu nous appelle à quelque chose, il nous donne la force de le faire? Moi, je le crois, que ce à quoi on est appelé à faire, Dieu nous aidera à le faire. Vous en êtes convaincus. Si Dieu donne quelque chose, il pourvoit. C'est évident. Dieu ne peut pas ne pas pourvoir. S'il ne pourvoit pas, c'est qu'il y a un problème grave. Donc, au début du ministère, il est en train d'obéir. Et j'aimerais que cela nous ramène à tous ces textes. Quand nous voyons le ciel s'ouvrir, bien sûr, on n'aura pas le temps de le faire ce matin. Mais c'est quand même important. Je pense à ce texte de Malachie. Vous connaissez le texte de Malachie? C'est le seul texte dans l'Ancien Testament où Dieu s'autorise à dire « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. » Parce que si vous avez lu le livre de Malachie, il y a un méli-mélo pas possible qui nous montre que nous sommes un petit peu dans ce même cas de figure aujourd'hui. Vous avez lu le livre de Malachie? Est-ce que vous l'avez lu, le livre de Malachie? Vous l'avez lu? Vous avez vu le toupet, excusez-moi l'expression, le toupet des croyants devant Dieu? Mais c'est quand même impressionnant. Par exemple, parce que j'ai tout noté, bien sûr, Malachie chapitre 2, verset 17, Dieu parle au travers du prophète, mais on le voit aujourd'hui ça. Vous dites quelque chose de la part de Dieu, et les gens vous disent, mais de quoi je me mêle? En fait, ils ne le disent pas comme ça, mais c'est comme ça qu'ils vous répondent. Je peux vous dire qu'au jour de l'enlèvement, là c'est sûr qu'ils se mêleront d'autres choses, ça c'est sûr. Malachie, chapitre 2, verset 17. C'est Dieu qui parle. Mais regardez ce qu'on faisait de la parole de Dieu. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Alors, bien sûr que si je vous disais ça ce matin, tiens, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous diriez, au fait? Si je vous disais, bon, Dieu ne m'a pas demandé de vous le dire, mais si je vous le disais, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Quoi qu'il pourrait le dire à certains? Est-ce qu'il pourrait le dire à certains? Mais bien sûr. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites « En quoi l'avons-nous fatigué ?» Je ne sais pas sur quel ton ils l'ont dit, mais je pense que je m'en rapproche. « En quoi l'avons-nous fatigué ?» C'est en disant « Quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. » Ou « C'est en lui qu'il prend plaisir. » Ou bien, regardez bien, une question, « Où est le Dieu de justice ?» Si Dieu était juste, il n'y aurait pas tout ce tralala. Si Dieu était puissant... Mais là, on ne va pas rentrer dans ce sujet, parce que si Dieu bénissait les conséquences du mal, je peux vous dire que Dieu ne serait plus saint. Mais ça, c'est un autre sujet, c'est un peu compliqué, j'avoue. Mais mes frères et sœurs, lisez le livre de Malachie, et vous allez voir que les chrétiens vont très, très mal. Et ça peut nous permettre, à nous les chrétiens, de faire justement une analyse et de dire, tiens, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai. C'est vrai, peut-être que, regardez au début, quand il est dit... Au début, verset 2. C'est important ces choses, parce que certains se demandent pourquoi leur champ n'est pas vert, leur champ n'est pas béni. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Vous le croyez que Jésus vous aime? Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Oui, c'est toupé qu'on a. Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Alors, vous savez très bien que ça ne veut pas dire que Dieu a eu de la haine, c'est-à-dire qu'il y a une telle différence de caractère, de personnalité, qu'on peut comparer cet éloignement à de la haine. C'est comme quand Jésus dit, si quelqu'un ne hait pas son père ou sa mère, vous connaissez ce texte. Est-ce que Jésus demande à quelqu'un de haïr son père? Bien sûr que non, mais l'amour pour Dieu doit être tel que par comparaison, on pourrait penser que c'est de la haine envers ses parents. Mais Dieu nous demande d'aimer nos parents, bien entendu. Et quand vous lisez la suite, vous voyez qu'il y a des questions qui révèlent qu'ils ne vont pas bien. Et au chapitre 3, cette fameuse affaire où Dieu dit « Mais mettez-moi de la sorte à l'épreuve », alors moi j'ai souvent entendu dire, des chrétiens dire à quelqu'un d'autre « Mais t'as qu'à mettre Dieu à l'épreuve ». On entend ça, « Mais Dieu à l'épreuve ». Mais attention, c'est pas ça du tout. C'est pour ça qu'il faut apprendre à lire tout un chapitre au moins pour comprendre le texte et le contexte. Vous vous rendez compte, Dieu... qui nous autorise à le mettre à l'épreuve. Mais c'est dans quel contexte? Alors c'est dans un contexte un peu compliqué, là aussi, c'est le contexte de l'argent. Alors ça, c'est pas compliqué, c'est très compliqué. Malachie, chapitre 3, verset 7. « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez pas observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Et vous dites, « En quoi devons-nous revenir ?» Quelqu'un pourrait dire, « Mais moi, je suis dans l'Église, je n'ai pas besoin de revenir à Dieu. » Quelqu'un pourrait le dire, ça, vous voyez, avec autant de légèreté. Croyez-moi, on peut être dans l'Église et être un parfait hypocrite. Moi, je l'ai été. La fois où je vous ai dit que j'avais vu un film avec de la grossièreté et que je l'ai regardé jusqu'à la fin, et que je me suis dit à la fin, tu es le pasteur de l'Église, tu prêches sur la sainteté, et tu regardes un livre, tu regardes un film avec des mots grossiers à l'intérieur, et bien, je prends un chemin, je me suis dit, mais tu n'as rien à faire sur une estrade, tu n'es qu'un hypocrite. Et c'était vrai. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et voyez, on a vite fait de devenir un hypocrite, prêcher la sainteté et ne pas la vivre. Moi, je peux vous dire que j'ai été un hypocrite, un parfait hypocrite. Et là, il continue, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Alors c'est pour la dîme, mais ça peut être... L'hypocrisie, c'est un problème aussi. La dîme, c'est grave. Mais l'hypocrisie, c'est pas un gros problème, l'hypocrisie? Vous voulez d'un pasteur hypocrite sur la chair? Franchement, est-ce que vous aimeriez, vous me garderiez si je vous dis, oh, mais je vais rester hypocrite, ça me va très bien. Vous me payez tous les mois, j'ai mon salaire, on s'entend, d'accord, on s'arrange assez entre nous, voilà, on peut le faire, ça. Est-ce que c'est ça que vous voulez, un pasteur hypocrite? Répondez. On va faire un vote. Mais mes frères et sœurs, ça peut bien se présenter, cette affaire. Eh bien, Dieu regarde au cœur. Et ça peut être l'hypocrisie, ça peut être le mensonge. Ça peut être le mensonge. Un chrétien, j'espère qu'il n'y en a pas ici, mais un chrétien peut s'habituer à mentir à ses enfants, à mentir à sa femme, et ça va très bien. Eh bien, je peux vous dire, ne mettez pas Dieu à l'épreuve. Arrêtez de mentir, vivez dans la vérité, et vous verrez que Dieu vous bénira. C'est ça, obéir. Jésus, il prend le baptême, il exprime quelqu'un qui est en train de mourir à lui-même et dire « Ma vie ne m'appartient pas, je vais faire la volonté de Dieu. » La deuxième fois où Jésus voit le ciel s'ouvrir, c'est au milieu de son ministère. C'est dans Luc au chapitre 9, si je ne me trompe. Luc au chapitre 9. Pareil, qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Vous connaissez cette affaire, on ne va pas la lire en entier. Luc chapitre 9, c'est la fameuse histoire de la transfiguration. Vous connaissez cette histoire où Jésus va sur une montagne et là, alors qu'il est bien sûr encore en train d'obéir à Dieu, il est là et devant les yeux de trois apôtres qu'il avait accompagnés, il est en présence du prophète Élie et de Moïse. Vous connaissez cette histoire? Vous croyez que c'est vrai ou c'est des... Vous croyez que c'est vrai, ça? Non, vous êtes sûr que c'est vrai? Vous êtes sûr que Moïse est vivant? Mais Élie, il est vivant aussi. Vous le croyez qu'ils sont vivants? Ce matin, je méditais dans la prière quand il est dit que les morts entendront la voix de Jésus. On se rend pas... Nous, on fait gaffe avec nos oreilles physiques, mais on ne calcule pas le spirituel. Et là encore, c'est autre chose, mais c'est pour vous dire qu'on ne réalise pas que nous avons des oreilles spirituelles, des yeux spirituels, qui devraient nous permettre vraiment d'avancer dans cette bénédiction, même matérielle. Parce que Dieu n'est pas insensible pour nous bénir que spirituellement. Dieu peut bénir quelqu'un matériellement. Vous le croyez que Dieu peut bénir matériellement? Oui, mais c'est clair. Et là, nous voyons cette affaire. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? On va lire au verset 28. Luc 9, 28, environ 8 jours après qu'il eut dit à ses paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Ça nous rappelle qu'il y a des hommes qui ont été choisis. Voyez, parmi les, il n'a pas pris les 12, il n'en a pris que 3. Des fois, il n'a pris que Jean. Voyez, mes frères et sœurs, Dieu voit les gens qui peuvent faire certaines expériences avec lui. Est-ce que vous voudriez faire partie de ses frères, de ses sœurs, qui vont être attirés dans la présence de Dieu pour vivre certaines expériences? Non? Moi, si, ça m'intéresse. d'avoir cette approbation de Dieu, que Dieu m'attire dans sa présence. Pendant, verset 29, qu'est-ce qu'il fait encore ? Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie. Que ça devait être bien quand même à voir. Dommage qu'il n'y avait pas les caméras à l'époque. Hein. Qui, apparaissant dans la gloire, parlait de son départ qu'il allait accomplir de Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. » Bon, je le comprends quand même. « Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Vous voyez, ce qui prouve que quand vous serez au ciel, vous reconnaîtrez les gens. Vous reconnaîtrez tout le monde. Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vient les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Amen. » Jésus est en train de prier. Jésus est en train d'obéir. Jésus est dans la volonté de Dieu, c'est le milieu de son ministère et de nouveau le ciel s'ouvre. Parce que c'est bien de bien commencer. C'est bien. C'est bien de bien commencer avec Dieu. Mais la Bible dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que ce commencement. Parce qu'on en a vu beaucoup de gens bien commencer et très très mal finir. Et Jésus a bien commencé, il a poursuivi son ministère dans l'obéissance. Et si vous regardez à la fin de son ministère, c'est dans Jean au chapitre 12. Si vous connaissez bien les Écritures, vous savez que c'est la fin de son ministère. Jean au chapitre 12, pareil, il est en train de prier. Il est en train d'expliquer que nous aussi, nous pouvons honorer le Seigneur, que nous pouvons vraiment lui obéir. Jean chapitre 12, parce qu'à partir du chapitre 13, il est parlé de que c'est son heure de partir, etc. Donc, c'est la fin de son ministère. Il a obéi. Il est dans l'obéissance. Le ciel s'est ouvert au-dessus du Seigneur. Et le ciel s'ouvrira si nous obéissons, quelle que soit l'étape dans laquelle nous sommes de notre vie. Jean chapitre 12, verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Il est en train de prier. Là même, on connaît la prière. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient non, un ange lui a parlé, etc. Qu'est-ce qui est en train de passer ? Dieu ouvre de nouveau son ciel. Dieu parle. Mes frères et sœurs, ma pensée ce matin, c'est que nous ne pouvons pas nous permettre de faire n'importe quelle prière, de mettre Dieu à l'épreuve, si nous n'avons pas pris la décision d'obéir. Si tu obéis, ce n'est pas être d'accord, parce qu'il y a des gens qui sont d'accord, mais je suis d'accord. Ce n'est pas d'obéir, c'est de recevoir et de mettre en pratique. Vous relirez Deutéronome 28, vous relirez Malachie en entier et vous verrez que des gens ont commencé à réagir après la prédication de Malachie. Il y en a qui ont dit, bon mais quand même, ça serait sage que ceux qui craignent l'Éternel, on se retrouve. C'est bien quand ceux qui ont la crainte de Dieu sont d'accord. Vous connaissez la suite, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui, et l'Éternel écouta. Il n'a pas écouté quand il priait. Le Seigneur a écouté quand il parlait. Est-ce que vous savez que Dieu nous écoute quand on parle ? Vous savez que Dieu n'écoute pas que les prières. Il y a des gens qui s'imaginent que Dieu n'entend que les prières. Si vous racontez des blagues au travail à deux balles, le Seigneur les entend aussi. Et moi, ça ne me fait pas rire du tout. Parce que quand on voit combien certains chrétiens se comportent, comment certains chrétiens s'autorisent à parler, ça nous prouve que beaucoup de chrétiens n'ont pas la crainte de Dieu. Et quand ces gens du temps de Malachie ont commencé à réagir à force de raconter des paroles désagréables et que Dieu quand même leur a dit, mais quand même, ceux qui craignaient Dieu, ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et ils se sont réunis. Et Dieu les a bénis. Et Dieu leur a dit, mais vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui pratique la justice et celui qui ne la pratique pas. Celui qui obéit. Parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que dans ce pays, même si les ténèbres s'épaississent, même si tout va aller de plus en plus mal, ça, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. On sait que si, c'est grave. Mais vous comprenez que nous, ça devrait pas nous influencer. Que quand la nuit tombe et s'épaissit de plus en plus, ça vous affole. Vous le savez que la nuit va s'épaissir. Vous le savez, oui ou non? Vous le savez. Vous vous inquiétez pas le soir où la nuit tombe. Vous le savez qu'il va faire nuit. Donc nous savons que les ténèbres vont s'épaissir, mais nous sommes la lumière du monde. Et nous serons la lumière du monde, et le ciel s'ouvrira, et la pluie tombera, et véritablement, nous verrons la grâce de Dieu. Chacun. Qu'il en soit ainsi, que ça soit corporatif, collectif. Mais mes frères et sœurs, si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous voulons entendre Dieu nous parler, vous avez vu là, quand Dieu lui a parlé, les gens disaient, tiens, c'est un coup de tonnerre. Les gens, ils n'entendent pas. Mais la prédication, c'est pareil. Il y a des gens qui disent, oui. Moi, il y a des gens, des fois, qui disent, monsieur Gauche, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais ce que je vous ai dit ce matin, ce n'est pas la parole de Gérard Gaud. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous n'êtes pas d'accord avec Jésus. Il y a une femme cette semaine, il y a 6 mois en arrière, elle m'avait dit, monsieur Gaud, vos prédications, tatati, tatata, vous êtes trop dur, vous êtes trop sévère. Et je dis, mais vous avez lu la Bible? Ah non! Alors lisez la Bible. Et cette semaine, m'a appelé, monsieur Gauche, je vous appelle pour vous demander pardon. J'ai lu la Bible. Et je trouve que même le Seigneur est beaucoup plus sévère que vous. Vous voyez, les gens, ils ne lisent pas la Bible. Ils ne peuvent pas savoir si ce qu'un pasteur dit est biblique. Mais vous savez très bien, avec le peu de textes qu'on a lu, que ce que je vous ai dit, c'est la vérité. Et lorsqu'un homme obéit, lorsqu'un homme meurt à lui-même et dit « ma vie ne m'appartient pas », elle appartient à Dieu. Et si dans les annonces, je soupire à voir des hommes qui se lèvent comme des évêques, bien sûr des pasteurs aussi, mais des sœurs qui se lèvent comme des diaconesses, je suis convaincu que c'est la volonté de Dieu. Ce matin, on a 3 frères qui sont partis dans 3 églises qui n'ont pas de pasteur. Et laissez-moi vous dire que ça ne va pas s'arranger. Et dans une église où il y a des hommes, des femmes, des jeunes, il y a quand même, un mot que je n'aime pas, mais je l'utilise pour faire vite, il y a un potentiel. Mes frères et sœurs, ça vaut la peine que nous disions, mais moi aussi, je veux que le ciel s'ouvre. Je veux que le ciel s'ouvre au-dessus de ma vie. Je veux que Dieu entende mes prières. Je vous ai raconté dimanche dernier l'expérience que j'ai faite. Quand samedi soir, je suis rentré dans ma maison et j'étais à genoux dans mon bureau. Et quand j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu inclines le cœur de ton serviteur pour qu'il nous prêche, qu'il me prêche, parce qu'après tout, moi aussi j'ai envie d'entendre parce que je ne fais que prêcher. Et mettez-moi ma place. Je n'entends pas souvent des prédications. Seigneur, s'il pouvait prêcher sur Ézéchiel 47. Et ça l'a réveillé à 5 heures, tant mieux. Et il s'est tenu devant Dieu. Et il a cherché la face de Dieu. Et Dieu l'a poussé à prêcher sur Ézéchiel 47. Mais pour moi, c'était un signe de la part du Seigneur. Que Dieu veut bénir l'Église. Et il bénira l'Église, pas avec des gens qui sont d'accord avec des prédications. Il bénira l'Église avec des gens qui obéissent. Jésus, il ne prenait pas que le baptême. En plus, il n'avait pas besoin de le prendre, lui. Il était en train d'obéir. Alléluia. Et que Dieu nous donne du courage, mes frères et sœurs. Je termine avec cette pensée. Elle vaut ce qu'elle vaut. Ce matin, je lisais, c'était la première fois que je remarquais qu'il est dit que quand Jésus est mort, il n'y en a qu'un qui a osé faire quelque chose. Vous savez qui c'est? Il n'y en a qu'un. C'est Joseph d'Arimathée. Il est dit, il osa se rendre chez Pilate pour demander le corps. C'est écrit, vous l'avez lu comme moi. Il osa se rendre chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Tout le monde paniquait, tout le monde pleurait, tout le monde partait, tout le monde fuyait. Mais lui, il a osé aller chez Pilate, demander le corps de Jésus pour l'enterrer dans son tombeau qu'il avait acheté. En plus, il l'a récupéré puisque Jésus est ressuscité. Ça, c'est bien. Mais ça, c'est pas grave. Mais mes frères et sœurs, oser. Ça, ce matin, je méditais parce que je lisais. Il osa se rendre chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Frères et sœurs, est-ce qu'il y aura des gens dans l'Église qui oseront dire, voilà, je veux mettre Dieu à l'épreuve. Seigneur, c'est peut-être pas la dîme, c'est peut-être l'hypocrisie, consciente ou inconsciente, c'est peut-être la paresse, c'est peut-être un péché, j'en sais rien. Mais mes frères et sœurs, si Dieu, dans sa bonté, nous dit avec délicatesse, mais mettez-moi, il les a pas rejetés, il leur fait une proposition, et je crois qu'il nous l'a fait ce matin, à ceux qui vivent peut-être dans le flou, mais obéissez-moi, collectivement, mais il pourrait s'adresser à chacun de nous, à moi-même, et il le fait à chacun car c'est le verset quand même qui s'est imposé pour que je prépare cette prédication, il enverra à chacun. Et si chacun, nous prenons à cœur cette parole, plutôt que de dire, oui, c'était un beau sermon, c'était bien, seulement, oui, bon, d'accord. Mais est-ce que tu vas obéir? Parce que si tu obéis, je peux te dire que tu peux méditer Deutéronome 28 et ça va te faire beaucoup de bien. Parce que tu verras que le, il le dit dans Malachie, je suis le Seigneur, je ne change pas. Voilà, Dieu ne change pas. Vous avez peut-être changé, le ciel s'est peut-être ouvert à votre baptême, peut-être qu'il ne s'ouvre plus depuis, mais moi je peux vous dire que le ciel de Dieu veut s'ouvrir au début, en plein parcours et à la fin de votre vie. Vous voulez que le ciel s'ouvre le dernier jour de votre vie? Vous voulez? Moi je veux que le ciel s'ouvre. Moi je veux que le ciel soit ouvert, je veux entendre la voix de Dieu. Je dis ça en tant que chrétien, je ne dis pas ça en tant que pasteur. Je veux oser, comme Joseph d'Arimathée, m'approcher, et pas de Hérode ou de Pilate. Je veux m'approcher du Seigneur et entendre sa voix. Qu'est-ce que tu as à me dire, Seigneur? Peut-être que cette parole est pour nous. Écoutez-le. Écoutez le Seigneur. Écoutons-le.